Justement, enfin, je
Enfin.
pense à ça parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est pas
Ah
du
non,
tout
mais
le
c'est
cas,
pas le
quoi.
cas.
À votre avis, pourquoi est-ce qu'ils ont écrit ça?
Parce
Parce
qu'il y
qu'il
devait y
y
avoir
avait
beaucoup
l'égalité,
d'injustices.
il y avait beaucoup d'injustices.
Mmh.
Bon, donc ça tranche avec quelque chose?
Bah oui,
Oui,
avec
mais
ce
ça
qui se
serait
passait avant.
Ça veut
ouais.
dire qu'avant, les
Mmh.
hommes n'étaient pas libres égaux en droit?
Ah non, je pense qu'il y avait une justice à
À deux.
minimum de
Oui.
vitesse.
Ah,
Est-ce que
mais
c'est
il y avait des serfs,
Non, il y
il y
avait
avait
ça,
des.
je veux dire, il
Il y
n'y avait
avait
pas de
des
justice.
esclaves.
Il n'y avait pas de justice du tout.
Encore avant,
Non, mais
il
ils étaient
y
soumis,
avait
ils étaient soumis.
Ils étaient soumis par le gouvernement.
Il y avait des privilèges.
Ben oui, voilà.
Voilà. C'est-à-dire que c'est pas tellement qu'il y avait une justice. Alors, de
Non,
ce
on dit
point de
bien que c'est
vue-là,
l'abolition des
la
privilèges.
justice, c'est assez, peut-être un peu surprenant, mais la justice était assez juste, ce qu'on s'imagine. Hein? C'est-à-dire qu'un noble qui tuait, faut pas croire qu'il était exonéré parce qu'il était noble.
On lui
Donc la
coupait la tête
justice,
aussi?
du point de vue pénal, du code pénal, était assez juste. Non, la raison de cette phrase, c'est que les hommes naissent et demeurent. Ça veut dire qu'il y avait des privilèges à la naissance.
Des droits naturels.
Voilà, à la naissance, il y avait des privilèges. Et
Donc c'est
donc,
la fin des privilèges.
et c'est la fin des privilèges.
C'est l'abolition des
C'est
privilèges.
l'abolition des privilèges.
Sauf que c'est
Bon,
pas le
cette
cas.
phrase veut dire
Ah
l'abolition
non.
des privilèges. Alors, cette phrase marque une rupture majeure hein, dans les distinctions entre les hommes, c'est-à-dire qu'ils sont tous égaux à la naissance en droit.
Moi, mais c'était une utopie, ça.
Alors,
Puisqu'on n'a pas arrêté le système de l'argent.
oui,
alors, on s'approche. Maintenant, point de vue,
Pardon,
qu'est-ce que ça
excusez-moi, mais.
qu'est-ce que ça laisse dans l'ombre?
Ben,
À
je vois
votre
que c'est
avis, est-ce qu'il y a
impossible.
quelque chose qui est faux dans cette
Ben, oui,
affirmation?
tout, hein.
Carrément.
On ne peut pas naître égal avec quelqu'un d'autre parce que justement, on a les biens de ses parents, on a une famille qui a un statut social, qui
C'est
a
déjà
un.
une utopie.
Mais on est au centre de l'analyse des faits. Ce qu'on met en avant dans la DDHC, c'est qu'il a introduit l'égalité. C'est formidable, c'est l'égalité. Mais la DDHC ne voit l'égalité que sous un seul angle. C'est l'égalité de tous devant la loi.
Voilà.
Mmh.
Donc on parlait de justice,
Voilà.
mais on parlait pas d'argent.
Oui.
L'égalité de tous devant la loi. Mais elle ne parle pas de ce qu'on peut appeler l'égalité des chances ou de façon plus générique de l'égalité sociale. Ça veut dire que il n'y a pas de privilège qui est donné par la loi, hein, mais il y a des privilèges qui est donné par la situation. Et donc, aujourd'hui, si on veut parler de l'égalité, si on recherche l'égalité sociale, si on veut faire en sorte que chacun arrive dans la vie vraiment avec le même patrimoine matériel et immatériel que le voisin, il faut aller au-delà de l'égalité simple devant le corpus législatif. Il faut aller vers des dispositifs qui font en sorte qu'il n'y a pas d'inégalité à la naissance, notamment de patrimoine matériel et immatériel.
Même sur la partie demeurée, enfin, il y a des lois différentes, on appelle ça comme on veut dans les entreprises, avec chaque entreprise a des accords d'entreprise, justement, choses comme ça, qui sont aussi validés par la loi. On dit, OK, ils ont tel ou tel bénéfice qui sont différents. Quoi. Les régimes de retraite sont différents, et en fonction de chaque personne, donc plutôt de chaque organisation. Donc là,
Oui,
les lois
même entre un
différentes
cadre
sont
et un
validées.
ouvrier, il y a déjà des
Alors,
différences.
attendez,
il y a la loi de travail, il y a
ce que vous
la
dites est vrai,
d'entreprise, quoi.
mais à mon avis, c'est pas dans le sujet. Ce dont vous parlez, ce n'est pas la loi. C'est dans le cadre de ce qu'on appelle le règlement intérieur, c'est-à-dire c'est des règlements d'une profession dans laquelle vous êtes entré volontairement, vous êtes lancé dans une profession qui va s'organiser, c'est-à-dire cette profession, pour mutualiser un certain nombre d'avantages, de profits, enfin disons de services qui sont procurés à la collectivité qui a volontairement décidé d'entrer dans son règlement intérieur. Bon, la loi, ce qui distingue la loi du règlement intérieur, c'est le caractère universaliste. Bon. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse, en tout cas juridiquement, à mon avis, ça ne tient pas, qu'on puisse mettre sur le même plan la loi universaliste et puis le règlement intérieur d'une entreprise. Donc, les différences qu'il y a entre la retraite d'un employé de la SNCF et puis la retraite d'un artisan boulanger, c'est justement du ressort, effectivement, de la législation générale. Et alors, effectivement, d'un certain point de vue, vous avez raison, si on considère effectivement que la loi devrait faire en sorte que les inégalités de départ, mais ensuite, la question se pose, mais là elle se poserait dans le cadre d'une refondation constitutionnelle, de savoir si dans le courant des acquisitions de la vie qui sont liées à les efforts des uns des autres, si on pousse jusqu'au bout votre raisonnement, il faudrait dire que ce n'est pas normal que telle personne gagne plus qu'une autre. Donc on serait sur, pourquoi pas, on serait sur une philosophie politique qu'on appelle égalitariste radicale. C'est-à-dire qu'il faut que tous les gens soient égaux, à la fois au départ, mais pendant. C'est-à-dire qu'il n'y ait jamais aucune différence de revenus entre les uns et les autres. Pourquoi pas, on est sur des raisonnements qui vont pouvoir être mis en pratique lorsqu'on va réécrire un corpus législatif. Il s'agit de savoir si, en mettant une définition plus élargie de l'égalité, jusqu'où on peut aller. L'égalité, là, se limite à dire qu'il faut que tous les hommes soient égaux devant la loi. Mais elle ne dit pas plus. Et on ne trouvera pas, alors bon, on verra, on ne trouvera nulle part, ni dans le préambule à la Constitution de 48, 46, ni dans la Charte de l'environnement, ni dans la Constitution de 58, des dispositions qui disent qu'il faut que les gens soient égaux en revenus.
Oui, ce qu'il y a, c'est qu'on assimile le droit au droit par rapport à la loi.
Oui,
et donc la loi, elle régit bien quand la même, par exemple, les régimes de retraite, la sécurité sociale, le fait de pouvoir gagner sa vie aussi. Enfin, dans ce cas-là, il ne faut pas mettre en droit, il faut le mettre devant la justice et uniquement. Et au moins, il n'y aura pas de problème de sémantique, il n'y aura pas de problème d'interprétation. Parce que là, on l'interprète effectivement, nous, en droit, quel droit ? C'est que le droit légal ou est-ce que c'est le droit... le droit de vote, le droit de se rouler dans la boue, enfin j'en sais rien, mais...
Le droit de vote fait partie de l'égalité de l'égalité.
Ben, oui, mais sauf qu'en droit, si c'est mis qu'en droit, donc on ne peut pas dire que ça abolit les privilèges, enfin que c'était par rapport à des privilèges.
Ça abolit les privilèges, il y avait des privilèges, certains avaient le droit de faire quelque chose et d'autres n'avaient pas le droit de le faire.
Oui, voilà. Mais aujourd'hui, on en a un peu.
C'est... Oui, bon. Alors.
Voilà. Mais à l'époque, déjà. À l'époque, déjà.
Si on veut.
Je crois qu'on en est au même point.
De résumer tout ce qu'on est en train de dire, la première partie de l'article 1er affirme l'égalité de tous devant la loi. La loi ne doit pas être discriminante. Hein, Donc ça, c'est... mais ça ne va pas plus loin. Et la question se pose,
jusqu'où on peut aller.
La question se pose de savoir si on ne doit pas mettre la barre plus haut pour l'égalité, et dire qu'il faut aussi qu'il y ait l'égalité du patrimoine. Alors à ce moment-là, ça veut dire revoir toute la législation sur l'héritage, éventuellement faire une loi de redistribution initiale du patrimoine, et puis mettre la barre encore plus haut, dire qu'il faut qu'il y ait l'égalité des revenus, et puis mettre pourquoi pas la barre encore plus haut. Là, parce qu'on a parlé de l'égalité matérielle, patrimoine, revenus matériels, mais l'immatériel, c'est l'environnement. Donc, si on veut mettre la barre plus haut, il faut retirer les enfants du milieu familial et les mettre tous, pareil,
dans une couveuse. Qui
sont élevés par la collectivité.
Dans une couveuse.
Vous voyez, non, ça ouvre un champ, ça ouvre un champ de réflexion assez large. Alors, on peut peut-être pour l'instant... Se borner à dire que l'article 1er affirme qu'on met à bas les privilèges. Il ne peut pas y avoir de loi différente pour les uns et pour les autres, de loi universaliste, de loi générale. Mais elle ne dit absolument rien d'égalité sociale. Alors, la deuxième partie de phrase.
Qu'est-ce que ça veut dire? De ce que je comprends, c'est que combien même il y a une égalité en droit par rapport à ce qu'on peut avoir en termes de revenus, qu'on peut verser. Ben en fait, c'est proportionnel, en fait.
Je veux dire, par rapport au prélèvement fiscal.
Oui, non, mais quand on dit les distinctions sociales ne peuvent pas fonder que sur l'utilité commune, je pense à parler comme les impôts, quand c'est proportionnel aux revenus de chacun.
Non, c'est... C'est pas... Alors, l'interprétation... Parce que comment, David avait déjà bien avancé la chose. La première partie de l'article de Gaudier dit les hommes sont égaux en droit, mais le législateur se rend compte... Ils sont des distinctions. Et il dit, il y a des distinctions qui sont acceptables si elles sont fondées sur l'utilité commune.
Je trouve que c'est une forme de définition de la méritocratie. Là, c'est ça. Oui.
C'est une validation de la méritocratie. Alors, méritocratie, vous êtes gentil en disant méritocratie, moi je dis ça ressemble plutôt à l'arbitraire, là, plus que la méritocratie.
En fait, je voulais vraiment revenir sur le contexte politique, parce que là-dedans, il faut savoir que quand la monarchie tombe, la plupart des régions sont faites par des préfets ou par des marchands, et c'est eux qui poussent en fait une... on va dire qu'ils servent de tampon sans donner les bonnes informations au peuple. Quand le peuple se révolte, en fait, quand le roi demande des deniers et des taxes suffisantes, pas suffisantes, mais supplémentaires aux différents régisseurs de région ou une guerre.
Les fermiers généraux.
Voilà. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'eux, les généraux ont gardé leur part. Par contre, ils ont taxé deux fois plus le peuple en disant mais c'est la monarchie qui prend. Le même système qu'aujourd'hui,
on a les mêmes qu'aujourd'hui.
Sauf qu'eux, ils ont pris la part au milieu et ils se sont servis de ça et qu'ils ont mis à bas le roi. Quand Louis XVI a été guillotiné, il y avait des marchés populaires autour, à trois rues, et aucune personne de la population n'était au courant que le roi se faisait guillotiner. Il n'y avait que des préfets ou des gens haut placés et des marchands qui étaient présents. La population n'était pas du tout au courant de la propre exécution du roi. Et c'est... eux, à ce moment-là, c'est cette prise de pouvoir qui a été mise, parce que les privilèges, cette chute des privilèges, leur permettent aussi, après, moi j'ai regardé ça par rapport à mon métier, parce que j'ai étudié les droits dans les semences, et c'est à partir de la révolution que les droits sur les
ça
semences...
Ça fait problème.
Que les droits sur les semences arrivent, parce que les semenciers étaient importants, les agriculteurs suivaient les semenciers, parce que c'est deux métiers différents. Mais une fois qu'ils ont fait tomber les privilèges, ils ont pu acheter ces droits et vendre. Alors qu'avant, la monarchie avait certains privilèges que les marchands et les gens d'argent ne pouvaient pas atteindre. Et en fait, en fond, quand on voit cette première, ça leur donne en fait ce droit-là de dire qu'avec l'argent, je peux accéder. Alors, on est tous droits, on sera tous logés à la même enseigne, mais c'est plus les privilèges, on va dire, royaux ou sacrés ou autres, qui vont définir, mais ce sera plus l'argent qui va prendre le dessus et qui va...
Ce conseil, il t'amène la semence. Donc, eux, ils ont plus d'argent.
Voilà. L'utilité commune.
Pour ce contexte-là, en fait, le contexte est aussi très particulier, c'est que beaucoup d'agriculture se faisait avoir par des charlatans qui vendaient des fausses graines, des graines abîmées, etc. Donc les semenciers ont pris le dessus et les gens ont décidé de payer plus cher pour éviter d'avoir un... Après, il y a tout un contexte social qui est totalement différent, il faudrait revoir tout le contexte social.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres réactions ou d'interprétations sur cette phrase « Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ?» Parce que c'est une phrase...
Bah, elle est contradictoire avec la première, en fait, de toute façon. Elle est totalement contradictoire avec la première. On dit que tout le monde... Les gens sont égaux, mais on peut faire...
Égaux en
quoi?
Égaux en quoi?
Ils
naissent
égaux, mais ensuite, il va y avoir des inégalités.
Ça n'existe pas parce qu'on nous dit que ça n'existe pas.
Oui, mais c'est ça.
Alors, d'un point de vue, l'égalité
n'existe pas. Oui, c'est ça.
Voilà.
Et qui peut synthétiser la première partie de phrase dit les hommes sont tous égaux devant la loi. Mais il va y avoir quand même des inégalités, bien que les hommes soient égaux devant la loi, il va y avoir des inégalités.
Et c'est que si elles sont
qu'on considère normales parce qu'elles sont justifiées.
Pour la communauté. Pour
l'utilité commune. Bon. C'est ça que ça dit. Mais c'est lourd de conséquences.
Bah oui. Du moment que ça sert à tout le monde, ou que tout le monde se sert.
Est-ce qu'on peut. Le problème, là, c'est est-ce qu'on peut en tirer. Toujours garder l'histoire de principe en tête. Est-ce qu'on peut en tirer un principe? On a, dans la première partie de phrase, on a un principe, hein, qui est. Ce principe-là, il est clair. Qu'est-ce que c'est qu'un principe? C'est une proposition claire et précise qui fonde un raisonnement et duquel on peut tirer des règles d'application. Ça, c'est un principe. Par contre, deuxième partie, elle commence à dire un principe, c'est-à-dire qu'il va y avoir des inégalités. Bon, on attend le principe. On a un principe qui va dire qu'il y a un principe, c'est que un principe minimal, une espèce de truc minimaliste, tout le monde, la loi est la même pour tout le monde, on accepte quand même des inégalités et on attend le principe. Et le principe qu'on nous donne, c'est l'utilité commune.
C'est pour critiquer les usuriers, par exemple. Les usuriers vont faire de l'argent, c'est pour l'utilité commune.
Oui, mais du coup, voilà, il faut finir le principe.
Oui, mais c'est voilà.
Où est l'utilité commune? Un principe, c'est.
Je
répète ce que c'est qu'un principe. C'est une définition qu'on a trouvée dans le Larousse. Hein. Le principe, c'est une proposition claire qui fonde un raisonnement. C'est qu'on a dit qu'on a clair, c'est un raisonnement, et ça. Et en découle des règles d'application. Comment est-ce que vous voulez faire découler, par exemple, le fait de pénaliser un usurier, de foutre en prison? Avec cette phrase, c'est pas possible.
Non. Parce qu'il dira
que c'est un prudent. Si c'est un prudent, on dit que ça ne devrait pas exister.
Mais l'usurier, il a son utilité, qui est commune, il prête de l'argent. Bah si. Mais il prête de l'argent.
On est là dans l'analyse juridique précise, et on voit à quel point
il prête de l'argent, l'usurier.
Le décryptage juridique permet justement d'être très concret,
prêter de l'argent,
d'être très concret par rapport à l'utilité commune.
Avec un taux.
Alors, est-ce que avec cet article 1, on peut mettre
en les appelle les usuriers?
Non, parce qu'il n'est pas assez bien rédigé. Il n'est pas assez bien rédigé, pas parce qu'ils n'ont pas su le faire, parce que volontairement ils ont été flous. Pour que sous apparence de dénoncer un principe très 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 égalitaire, très très humaniste, en fait on puisse pas s'en servir pour aller pénaliser des gens qu'on ne veut pas qu'on soit pénalisé. Donc voilà l'exemple même d'un faux principe, et ça va se répéter sans arrêt. Bon, c'est bien d'y rester un peu plus longtemps là-dessus, parce qu'après on va connaître le mécanisme. Les distinctions sociales, c'est que il y a des inégalités, mais elles sont justifiées par l'utilité commune. C'est monstrueux de dire ça. Mm-hmm. Cet article est monstrueux.
C'est très contemporain.
Ouais. Voilà, disons que ça n'a pas changé.
Parce que l'article premier, ce qui est extraordinaire, c'est que, on parlait tout à l'heure.
Nous avons reçu la première.
Voilà, dans l'imaginaire.
Mais c'est ça le pire.
Mais la deuxième partie, alors sans doute parce que.
C'est bien ce qu'on a dit.
Comme on ne sait pas ce que ça veut dire, les gens la zappent. Oui. On ne sait pas ce que dire. Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux parce que c'est la validation des inégalités. Si par exemple, vous voyez, vous révoltez, vous dites, mais c'est pas possible, il y a des inégalités. Alors, les inégalités aujourd'hui, soit dit en passant, malgré l'élévation du niveau de vie du pays, les inégalités ont augmenté.
Oui, bien sûr.
Par rapport à 1789, l'écart en 1789 entre les revenus était de 1 à 20, de 1 à 30, aujourd'hui il est de 1 à 1000 entre le moins riche et le plus riche. Si on remonte dans le temps, d'ailleurs, on voit qu'au Moyen-Âge, l'écart était de 1 à 10 entre le serf et le seigneur. Le seigneur, il était mieux, il était dans un château pas chauffé, Donc, les inégalités. Et c'est ça, d'ailleurs, une des caractéristiques de nos civilisations développées, c'est que les inégalités, le niveau de vie de base a augmenté, et les inégalités. Et c'est justifié, finalement. C'est justifié, c'est validé par l'interprétation, par l'article 1 qui dit il peut y avoir du. Parce que si on vous dit, mais le capitalisme comme Thomas Gosme, finalement. C'est acceptable, sans parler du fait qu'il a fondé le fisc. Alors on va prendre un successeur qui gagne, je ne sais pas, 10 millions d'euros par mois. Bon, on va dire, ah mais c'est justifié par l'utilité commune. Mais parce que vous rendez compte, il fait vivre tellement de gens.
Ouais,
c'est ça, c'est écrit dans l'éducation. C'est pour ça que cet article est monstrueux.
Ouais.
Et on n'en parle pas. Mais nous, on est là pour les poils des muscles.
Et les écarts sont de 1 à combien aujourd'hui?
Alors, ça fait l'objet d'un certain nombre d'études, rendues difficiles par le fait que les gens qui gagnent énormément d'argent, vous n'arrivez pas à savoir exactement
combien. Ouais, c'est ça.
Parce que c'est une galaxie.
Ils investissent autant en fait que.
Ils touchent les dividendes.
Ils investissent sans arrêt.
Vous n'arrivez pas à savoir. Mais enfin, bon, les écarts qui sont répertoriés, c'est de 1 à 1000.
Oui.
Si on va dans les eaux qu'on ne connaît pas, c'est de 1 à 10 000. C'est pas chiffrable. Bon, chose qui n'existait pas au Moyen-Âge. C'était chiffrable. On savait la fortune d'un seigneur féodal était ce qu'elle était, mais c'était pas quelque chose d'incommensurable.
Alors là, on parlait d'argent, mais ils avaient un peu le droit de vie et de mort sur leur. Ils avaient d'autres.
Non, mais
alors, ça, c'est toujours le cas. Sauf que la manipulation est différente. Elle sera moins directe, elle sera plutôt totalement.
Non, mais alors, bien sûr, la vaccination pour les enfants.
Ça a été réglé par la première partie.
Le glyphosate.
Mais l'article 2 dit pour le reste. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cet article.
Bien sûr, qu'ils m'ont
il valide toutes les injustices sociales autres que l'inégalité devant la loi, qui effectivement est là. Si on veut aller dans les détails, l'inégalité devant la loi, l'égalité est théorique, et en fait, elle n'est pas vraiment réelle, parce que lorsque vous avez affaire à la loi, si vous avez un bon avocat, vous vous en sortez bien. Si vous avez un mauvais avocat, vous vous en sortez bien. Donc, ça, c'est le problème de la justice.
Parce que l'avocat, lui, va être payé pour débusquer justement ce genre de choses et jouer sur ces...
Ouais, et il y aura une jurisprudence qui, elle, ira à l'encontre de la loi, mais la jurisprudence dira que...
Il est 21h56,
ouais.
Et nous avons fait un article de l'UHC.
On est des mauvais élèves.
Mais bon, non, c'est la présentation. On n'est pas rondés. Ensuite, le dispositif on le retrouve... non, mais c'est...
Mais déjà,
on
là,
est d'entrée dans le sujet.
Là, on est déjà bien instruits. Hein. D'un côté, ils abolissent les privilèges et de l'autre côté, ils valident les inégalités.
Ce qui serait bien, c'est
deux choses que j'ai dit, abolition des privilèges et validation des inégalités.
Qu'on fasse le...
Super.
Brigitte, ce que vous avez suggéré, c'est-à-dire qu'on fasse un catalogue des choses dont on ne parle jamais. La colonne. Les sujets jamais abordés. Par exemple, la deuxième phrase, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
D'accord.
C'est une phrase énorme, qui peut faire l'objet de 4 conférences, de 20 débats télévisés, tout ça, parce que ça explique presque tout ce qui se passe dans le monde. Et on n'en parle jamais. Voilà. Donc on se donne rendez-vous jeudi prochain.